Vous écoutez
RMC. RMC, intégrale Coupe du Monde.
Simon Dutin.
Ah, un peu plus de 48 heures du coup d'envoi de France-Espagne, demi-finale du Mondial 2026. Les Bleus en route, espérons-le, pour décrocher une troisième étoile. Elton Mokolo, Younes Belhanda, nos consultants pour vous accompagner jusqu'à 22h. On passera alors la balle à Nicolas Jamin, qui sera entouré ce soir de Walid Acharchour et Maxime Chanot. L'after est là. Tous les soirs, évidemment, de l'année, RMC Radio officielle de la Coupe du Monde pour ne rien manquer des matchs à venir. Des matchs à débriefer. On se penchera dans la deuxième heure sur la qualification de l'Angleterre hier face à la Norvège. Et puis des petites déclarations d'après match entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel. Serait-ce le début d'un caillou dans la chaussure de l'Angleterre ? Le football va-t-il rentrer à la maison ? Toutes ces questions qu'on se pose désormais à chaque mondial. Pour l'instant, une nouvelle fois, je pense qu'on vous serez d'accord, on peut parler d'une Coupe du Monde de joueurs plus que d'une Coupe du Monde du jeu. Hein. Mais alors, ah oui. Quelle Coupe du Monde de joueurs hein. Les stars au rendez-vous, notamment celle d'une équipe de France qui, en termes de talent individuel, n'a pas d'égal dans ce Mondial 2026. C'est en tout cas ce que tu penses, Elton, mon cher Elton Mokolo. Avis tranché.
Et puis sincèrement, Nassim, cette mentalité failure before success, ok, wow. Moi j'en suis revenu.
Failure before success.
À l'époque, c'était pour Tchouaméni.
L'échec avant le succès.
Exactement, c'était Tchouaméni et transition trouvée pour l'équipe de France avec Tchouaméni qui est vice-capitaine de l'équipe de France. Bah, écoute Simon, là ça fait un mois et un jour qu'on a débuté cette Coupe du Monde. On a eu 100 matchs de Coupe du Monde. Il en reste 4. Les 4 derniers demi-finalistes ont joué 6 matchs. Et moi, mon constat, il est sans appel. L'équipe de France, en termes d'individualité, a le meilleur niveau sur cette Coupe du Monde.
Pourquoi je dis ça ? Il t'a fallu 100 matchs pourtant. Ah, le meilleur niveau. Parce que sur le papier, on disait déjà que avant le Mondial...
Et c'est là où je voulais en venir. Parce que la théorie, c'est bien. La pratique, c'est mieux, parce qu'on était déjà confronté à ce même cas à l'Euro 2024, où à l'époque, on avait aussi des individualités qui étaient déjà là, mais sans pour autant trouver la vitesse de croisière au niveau individuel. On avait été obligé de chercher énormément sur le plan de l'attaque, de tourner Antoine Griezmann qui passait sur le banc, Ousmane Dembélé. Là, je n'ai pas ce sentiment, parce que quand je regarde les 4 équipes, les 4 nations, je t'aperçois que l'Argentine, l'Espagne et l'Angleterre sont confrontés à deux problématiques, c'est-à-dire problématiques collectives, à savoir des équipes qui parfois peuvent être mises en difficulté, problématiques individuelles avec comment tu construis ton 11 de départ. L'Espagne a par exemple écarté Pedri sur le dernier match. Ouais. L'Angleterre a écarté par exemple Bukayo Saka sur le dernier match. L'Argentine a aussi fait des choix. T'as un Lautaro Martinez qui est en sortie de banc, un Rodrigo De Paul qui est contesté. Et du côté de l'équipe de France, que ce soit sur le niveau collectif et surtout sur le niveau individuel, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment que sur cette Coupe du Monde, les individualités embellissent le collectif de l'équipe de France en même temps qu'elles conditionnent les adversaires. Aujourd'hui, c'est le symbole de la formation à la française. C'est une formation où, en fait, il ne faut pas avoir peur de le dire, qui est basée notamment sur l'individualité, sur le fait de dominer dans les duels. Et les duels, c'est absolument pas péjoratif. Et tu t'aperçois que dans les duels défensifs, c'est principalement représenté par Dayot ou Pamecano. Au milieu de terrain, ça a été représenté par un Manu Koné sur le dernier match contre le Maroc. On pourrait tout aussi bien parler d'Adrien Rabiot. Et dans les duels offensifs, moi, ce qui m'intéresse, ce qui définit le rapport de force, t'as un Kylian Mbappé qui est le co-meilleur buteur de la Coupe du Monde. T'as Ousmane Dembélé qui a mis 5 buts. Il faut remonter à 2002 pour voir Ronaldo et Rivaldo afficher 8 et 5 buts. Il a fallu attendre quand même 24 ans pour avoir deux joueurs d'une même équipe réaliser cette prouesse. Ça, c'est l'équipe de France. Je pourrais aussi te parler d'un Michael Olise qui se distingue sur le plan individuel. Tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à partir du moment où on a une formation qui encourage à faire briller les individualités à l'intérieur même d'un collectif, j'ai le sentiment qu'il y a cette maturité qui s'exprime sur cette Coupe du Monde et que à cet instant, et ça ne te garantit pas de gagner la Coupe du Monde dimanche prochain, le niveau individuel de l'équipe de France est le meilleur de la compétition.
Younes, un avis là-dessus, si je peux préciser un petit peu avec la question. Est-ce que c'est si dur que ça? Et pourquoi c'est si dur que ça quand t'arrives estampillé, très fort joueur? Pourquoi c'est aussi dur que ça de prouver que t'es aussi fort? De montrer à tout le monde que, oui, je suis fort avant d'arriver, mais je suis fort aussi pendant le tournoi.
Si tu prends l'exemple de l'équipe de France, quand tu vois sur la feuille de match, tu vois Mbappé, Dembélé, Olise, les équipes adverses, elles vont s'adapter en fonction de ce qu'ils ont en face. C'est pour ça qu'on voit pas des très beaux matchs, parce que tout le monde maintenant tactiquement sont très très forts. Ils savent les points forts, les points faibles des équipes adverses. Donc on voit des matchs pas très ouverts, pas très beaux à voir. Mais la France tire son épingle du jeu parce qu'ils ont des qualités individuelles, comme l'a dit Elton, où dans les duels, ils gagnent leurs duels, que ce soit offensivement ou défensivement. Ils sont tranchants, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont très méchants. Et ce qu'on voit dans les autres nations comme l'Argentine ou l'Espagne, où un Yamal en Espagne, il est encore en rodage. Tiens, Olmo, que moi j'aime beaucoup, c'est l'un des rares numéro 10, où c'est un peu, tu vois qu'il a la qualité, hein, il est très très fort. Moi je suis fan de Olmo, mais tu sens que c'est encore dans la retenue. Et quand tu compares avec Olise qui joue en numéro 10, tu vois que c'est tranchant, qui arrive à faire des passes décisives, même s'il a pas trouvé encore le chemin des buts. Moi ça me suffit. S'il trouve ses coéquipiers comme ça et il éclaire le jeu, ça suffit. Et pareil en Argentine où il joue dans un losange, où c'est un De Paul qui est à droite. Tu vois, c'est pas des spécialistes de couloir, ils ont manque de profondeur, t'as des latéraux qui montent mais qui viennent de loin, et tu as un Messi qui erre sur le terrain et tu attends qu'il fasse la différence. Donc voilà, la France a les plus belles armes, et individuellement comme il a dit Elton, ils sont conquérants et ils font très très mal, ils gagnent leur duel.
Et moi je suis fier d'avoir les mêmes joueurs préférés que Younes Belhanda, figure-toi, parce que je roule avec Dani Olmo depuis
Moi aussi,
quel joueur,
c'est beau avoir joué.
Concrètement, tous les deux, vous aviez des craintes, alors c'est facile maintenant que 6 matchs ont été disputés et que on a quasiment roulé sur tous nos adversaires. Vous aviez vraiment des craintes sur certaines individualités, vous aviez peur justement que ces joueurs-là, Olise qui a rincé toute l'Europe avec le Bayern, ne soient pas peut-être au niveau, que la fatigue accumulée joue, que finalement des joueurs sous-performent par rapport
non,
à...
Non, moi je regardais principalement le secteur offensif et la capacité à coexister, parce que quand on parle de ces joueurs-là, on parle de joueurs qui sont quasiment les joueurs numéro 1 dans leur club, que ce soit Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, Ousmane Dembélé, on va pas le présenter par rapport au PSG, Michael Olise, même si tu as la variable Harry Kane, mais au niveau sélection nationale, avec moins de temps pour retravailler, moi ce qui m'intéressait, c'est comment ils allaient coexister, comment ils allaient pouvoir justement s'accommoder au niveau des zones et ne pas se marcher dessus, parce qu'on aurait pu tomber sur ça. Et là, tu as le sentiment que à l'occasion de la deuxième période contre les Sénégal, il y a eu un clic, ou plutôt un déclic, avec le repositionnement de Michael Olise dans l'axe, Ousmane Dembélé qui était davantage sur le côté droit, sans pour autant que ça puisse impacter les joueurs. Et donc c'est pour moi c'était la principale inquiétude, comment ils allaient arriver justement à coexister.
Younes, faut donner du crédit à Didier Deschamps
on a tous eu des inquiétudes. Vous rappelez au début où on avait un peu critiqué Mbappé dans l'axe, où Dembélé trouvait pas sa place quand il était en dessous de Kylian, et une fois qu'il a été repositionné sur le côté droit et que Olise est passé dans l'axe, eh ben de suite on a vu les éclats de ce quatuor offensif. On minimise pas ce que font Doué et Barcola, parce que ils se suppléent très très bien. Quand il y en a un qui est titulaire et que l'autre rentre, il fait la différence aussi. Donc il faut pas minimiser aussi ce côté gauche. Mais bien sûr, au début, on a émis des critiques, mais ils ont enlevé tout ce doute qu'il y avait au début. Et surtout, moi, je parle défensivement aussi, où tu vois Kylian Mbappé qui fait les efforts, Dembélé pareil, Olise qui court que je sais pas combien de kilomètres, et le côté gauche pareil, Doué qui a un énorme coffre. Et c'est sur ça que j'avais un peu d'incertitude. Mais au bout du premier et deuxième match, ils ont levé toutes ces incertitudes et ils ont roulé sur l'eau. Ils ont été un peu mis en difficulté sur la première mi-temps contre le Sénégal, mais depuis, je les ai pas vus en difficulté.
20h33 sur RMC, on expertise les forces de l'équipe de France avec Elton Mokolo et Younes Belhanda. On est en train de se rendre compte que nos individualités sont au rendez-vous et performent au niveau où on les attendait, ce qui n'est pas forcément le cas, messieurs, selon vous, de certaines autres stars. Alors, on a rappelé quand même, notamment en introduction, que les stars sont présentes, mais est-ce que dans les autres sélections des demi-finalistes notamment, il y a des joueurs qui vous ont déçu jusqu'ici? Alors, Bellingham a fini de rassurer les derniers qui doutaient de lui hier, mais est-ce qu'il y a des joueurs dont vous attendiez plus dans d'autres
sélections? C'est beaucoup plus mitigé, par exemple, du côté de la sélection espagnole, on va davantage...
Yamal, on en voulait un petit peu plus.
Yamal, on en voulait un petit peu plus. Moi, je pense à Pedri, qui était particulièrement attendu. Il y a quand même eu un changement très important, avec le fait de voir Pedri remplaçant.
Étonnant qu'il l'ait sorti quand même.
Après, c'est vrai qu'il y a énormément de concurrence, il y a énormément de compétences, parce que t'as un Fabian Ruiz qui est double champion d'Europe, qui a démarré sur le banc, mais à un moment donné, il faut être en mesure d'être performant. T'as le sentiment que c'est beaucoup plus mitigé, ce qui rehausse aussi la performance collective espagnole, parce que t'as pas toutes les stars qui sont performantes sur cette compétition.
Younes, t'as été déçu par un ou certains joueurs, Yamal est encore attendu par, par ses parents à l'entrée du magasin.
Ouais. Ben, bien sûr, Yamal, avec la qualité qu'il a de percussion. Après, c'est plus général sur l'Espagne où je trouve que voilà, ça ronronne encore un petit peu. On a du mal à le trouver. C'est un peu déséquilibre. On joue plus du côté gauche que de son côté. J'ai l'impression que peut-être il y a un petit boycott. Je le sens un peu comme ça, moi. Je le sens un peu où on déséquilibre plus sur le côté gauche que sur le côté droit. Après, bien sûr, il y a mal. Tout le monde le connaît. Donc, il y a des prises à deux, des prises à trois. Mais c'est sûr que c'est pas le Yamal qu'on a vu ces derniers temps, surtout à l'Euro, donc et même contre la France en Ligue des Nations. Donc voilà, c'est plus sur Yamal, moi.
Après, moi, je pense que Younes, c'est ce qui conditionne aussi le fait que parfois on va pas toucher Yamal, c'est que entre l'Euro 2024 où il avait été extraordinaire et 2026, sa réalité, elle a changé. Il y a beaucoup plus de prises à deux, à trois, donc forcément, les Espagnols, ils se disent, ouais, on va pas jouer avec le feu et qu'on va essayer de trouver d'autres solutions.
Mais on va parler de toute façon de.
Après, il te crée un déséquilibre parce que tu vois, quand il le touche, t'as deux, trois joueurs, donc ça peut te libérer des espaces dans l'axe. Et tu l'as vu, il y a deux buts, je crois, où c'est Rodri qui la passe dans l'axe, c'est Merino qui plonge dans la défense centrale. Donc il ramène ce déséquilibre, il te libère des espaces dans l'axe, même si on attend plus de lui ou on aime le voir fantasque ou tu vois en dribbler deux trois, mais il libère quand même des espaces parce qu'il fait peur.
Je sens que vous avez envie de parler de cette rara et de nous parler de ses forces, ses faiblesses, la façon dont elle a fait évoluer son jeu, notamment pour s'adapter à des individualités de type Yamal qu'elle n'a pas toujours compté, dont elle n'a pas toujours compté des profils similaires dans les sélections précédentes. Et qui pourtant gagnait beaucoup et inspirait la crainte. On en parle dans un instant avec Elton Mokolo, Younes Belhanda. Avant ça, petit détour par Wimbledon, la finale du tournoi masculin. Eric Salio, où en sont Zverev et Sinner?
C'est la bagarre, hein. C'est la bagarre dans cette troisième manche puisqu'il y a trois jeux partout. Sinner est peut-être pas aussi fringant qu'il y a 20 minutes. Et là, il marque un point magnifique. Ah, c'est peut-être le plus beau point du match. Avec un petit lob, Zverev qui court, qui tente un passing de revers presque à l'aveugle. Mais Sinner était là pour placer la petite volée amortie. Donc 2-7-1, Sinner, 6-7, 7-6, 6-3, 3 partout, 0-15 sur le service de l'Allemand. Et je trouve que la visibilité commence à être douteuse. Il ne faudrait pas qu'ils arrêtent la rencontre à 2-7 partout pour installer le toit et les projecteurs. Ça couperait l'élan de tout le monde.
Ah, parce que ça part en 5-7.
Ça peut partir en 5, oui.
Fais confiance au flair d'Eric lorsqu'il pense à quelque chose. A tout à l'heure, Eric, pour la suite et espérons-le, le dénouement de cette finale du tournoi masculin de Wimbledon. Elton Mokolo, Younes Belhanda, qui m'accompagne jusqu'à 22h. Dans un instant, comme promis, on parle de cette équipe d'Espagne. Est-ce qu'on la surestime un petit peu? Est-ce que ce ne serait pas un piège tendu aux Français? On en parle dans un instant, vous ne bougez pas.